Extrait de Souvenir de la maison des morts. Fédor Dostoïevski. Le cheval du bagne. L'achat du bai, qui se fit peu après, fut pour les forçats une distraction plus agréable que la visite du haut fonctionnaire. Nous avions besoin d'un cheval pour apporter l'eau, emmener les ordures, etc. Un forçat avait la charge de le soigner et aussi de le conduire, escorté d'un soldat, cela va de soi. Matin et soir, la pauvre bête avait passablement affaire. C'était un bon cheval, mais déjà usé par un long service. Un beau jour, juste la veille de la Saint-Pierre, le bai, en amenant le tonneau du soir, s'abattit et creva en quelques minutes. On le plaignit. Ceux qui avaient servi dans la cavalerie, les bohémiens, le vétérinaire et quelques autres étalèrent leur savoir particulier en matière de chevaux, jusqu'à se quereller entre eux. Mais cela ne ressuscita pas le bai. Il restait étendu et chacun croyait devoir tapoter du doigt son ventre gonflé. On informa le major de l'accident et il décida aussitôt l'achat d'une autre bête. Le jour de la Saint-Pierre, de bon matin, après la messe, quand nous fûmes tous réunis, on amena des chevaux à vendre. Le choix de la bête était laissé aux forçats. Il y avait parmi nous de vrais connaisseurs, et il semblait difficile de duper 250 hommes qui, autrefois, s'étaient pour la plupart occupés de maquignonnage. Il vint des Kirghizes, des maquignons, des bohémiens, des marchands de la ville. Les forçats, joyeux comme des gamins, attendaient avec impatience l'apparition de chaque nouvelle bête. Ce qui les flattait le plus, c'était d'acheter leur cheval comme des gens libres, comme pour leur compte personnel. On refusa 3 chevaux avant de se décider à conclure le marché. Les maquignons regardaient avec une certaine perplexité autour d'eux et jetaient aux soldats chargés de les accompagner des coups d'œil non dénués de crainte. Ces 200 individus rasés, marqués au fer, portant des chaînes, chez eux, dans leur nid de bagnard, dont on ne laissait franchir le seuil à personne, étaient bien faits pour forcer le respect à leur façon. Les nôtres déployaient toutes sortes de ruses pour examiner chaque cheval au fer. Ils le considéraient sur toutes les faces, le tâtaient partout, avec persistance, d'un air affairé, sérieux, préoccupé, comme si la prospérité de la maison de force eût dépendu de cet achat. Les circassiens sautèrent même en croupe. Leurs yeux flambaient et ils discutaient avec vivacité entre eux dans leur langue incompréhensible en découvrant leurs dents blanches. Les circassiens sautèrent même en croupe. Leurs yeux flambaient et ils discutaient avec vivacité entre eux dans leur langue incompréhensible en découvrant leurs dents blanches, en hochant leurs têtes brunes au nez busqué. Certains de nos Russes prêtaient une telle attention à leurs discours qu'ils les dévoraient positivement des yeux. Ils ne comprenaient pas un traître mot, mais ils cherchaient à deviner à l'expression des visages l'opinion des circassiens sur la valeur de l'animal. Une attention aussi soutenue aurait paru étrange à un spectateur désintéressé. À quoi bon y mettre tant de soins et d'ardeur quand on n'est qu'un forçat, un pauvre forçat hébété et dompté qui, même devant certains de ses camarades, n'ose plus ouvrir la bouche. On croirait qu'il l'achète pour lui, ce cheval. Et pourtant, cela devrait lui être bien égal qu'on prenne celui-ci ou celui-là. Outre les circassiens, les bohémiens et les anciens maquignons se distinguaient particulièrement. On leur avait laissé le premier rang et ils avaient le premier mot à dire. Il y eut même une espèce de duel entre deux des forçats, le bohémien Koulikov, ancien maquignon et voleur de chevaux, et un rusé paysan sibérien, vétérinaire par vocation, arrivé depuis peu au bagne, qui avait déjà réussi à lui soutirer toutes ses pratiques en ville. Il faut dire que nos vétérinaires bénévoles étaient fort prisés, non seulement par les bourgeois et les marchands, mais par les hauts fonctionnaires qui les faisaient venir de préférence aux vétérinaires patentés. Koulikov, avant l'arrivée de Yolkin, le russo-sibérien, n'avait jamais rencontré de concurrent. Il possédait une riche clientèle qui, bien entendu, lui témoignait sa reconnaissance en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais, vrai bohémien et charlatan, il connaissait son affaire beaucoup moins bien qu'il ne le prétendait. Ses revenus faisaient de lui parmi nous une sorte d'aristocrate. Son expérience, son esprit, son audace, sa décision lui valaient depuis longtemps l'estime de tous les forçats. Il parlait d'ailleurs fort peu et ne donnait son opinion que dans les cas très importants. C'était un fat, mais doué d'une réelle énergie. Bien que déjà vieux, il gardait sa beauté et son intelligence. Je crois qu'habillé convenablement et introduit sous le titre de comte dans n'importe quel club de nos capitales, il y aurait fort bien tenu son rôle, joué au whist, ouvert la bouche de temps en temps, pas trop souvent, pour prononcer des paroles choisies, comme doit le faire un homme de poids. Et de toute la soirée, personne probablement ne serait douté que le prétendu comte n'était qu'un simple va-nu-pied. Je parle sérieusement. Son esprit, son tact, sa rapidité d'adaptation étaient surprenants. Ses manières d'une aisance parfaite. Il avait probablement beaucoup vu dans sa vie, mais ne soulevait point le voile de son passé. Il appartenait à la section spéciale. Avec l'arrivée de Yolkin, paysan vieux ritualiste, âgé d'une cinquantaine d'années, madré comme pain, la gloire vétérinaire de Koulikov pâlit. Il ne fallut que 2 mois à Yolkin pour lui enlever ses pratiques. Les chevaux que l'autre avait depuis longtemps abandonnés, le bonhomme les guérissait. Et très rapidement. Il guérissait même ceux que les vétérinaires patentés déclaraient incurables. Il nous était arrivé avec une bande de faux monnayeurs. Curieuse idée, à son âge, de se fourrer dans un pareil guépier. Il nous raconta, en se moquant de lui-même, qu'il leur fallait 3 pièces d'or authentiques pour en tirer une fausse. Koulikov avait de quoi s'offusquer des succès du croquant, car son prestige parmi les détenus faillit même décliner. Lui qui avait entretenu une maîtresse dans le faubourg, lui qui portait un caftan de velours, une bague d'argent, des boucles d'oreilles, des bottes à revers, fut obligé, à cause de son revirement de fortune, de se faire cabaretier. On s'attendait donc à voir les 2 ennemis prendre comme prétexte l'achat du nouveau bai pour en venir aux mains. La curiosité était d'autant plus excitée que chacun d'eux avait ses partisans. Déjà, les meneurs des 2 clans s'injuriaient copieusement. Déjà, une grimace sarcastique crispait le visage de renard de Yolkin. Mais les choses en allèrent tout autrement. Koulikov se garda bien de chercher querelle et se tira d'affaire avec une habileté remarquable. Il eut tout d'abord l'air de céder le pas devant son rival, dont il écouta les critiques avec déférence. Puis il le prit soudain au mot et lui fit remarquer d'un ton modeste mais ferme qu'il se trompait. Sans donner à l'autre le temps de se raviser, il lui démontra son erreur en donnant force détails précis. Bref, Yolkin fut fait quino de la façon la plus adroite et la plus inattendue. Et s'il garda quand même le dessus, le parti de Koulikov n'en demeura pas moins satisfait. Non, mes enfants, c'est pas si commode que ça de l'attraper. Il sait ce qu'il fait, le gaillard, disaient les uns. Yolkin en sait bien plus long, rétorquaient les autres, mais d'un ton conciliant. Les 2 parties discutaient maintenant sur le ton de la concession réciproque. C'est pas tant ce qu'il sait, mais il a la main plus heureuse. Et pour le bétail non plus, Koulikov ne craint personne. Il est si fort que ça, le gars. Pour sûr, il n'a pas son pareil. Enfin, le nouveau bai fut choisi. C'était une jolie bête, jeune, vigoureuse, d'apparence fort agréable. Elle paraissait irréprochable à tous les points de vue. Les marchandages commencèrent aussitôt. On en voulait 30 roubles. Nous en offrions 25. On discuta avec feu, longuement, âprement, en cédant d'une part et en ajoutant de l'autre. Enfin, les forçats eux-mêmes se mirent à rire. « Qu'est-ce qui nous prend ? Est-ce qu'on puise dans notre bourse ? » dirent-ils. « À quoi bon tant marchander ? C'est l'argent de l'État qu'on regrette, hein ? » ?»« Tout de même, les frères, l'argent est à nous aussi. »« À nous ? Faut en avoir une couche ! » Non, décidément, les imbéciles, ça sème pas, hein, ça pousse tout seul. Enfin, on se mit d'accord pour 28 roubles. On fit savoir la chose au major et le marché fut conclu. Alors, bien entendu, on apporta du pain et du sel, puis on conduisit en triomphe le nouveau bai dans l'intérieur de la forteresse. Je ne crois pas qu'un seul forçat eût négligé de venir lui tapoter la nuque ou lui caresser le museau. Ce même jour, le bai fut attelé, et tous regardèrent curieusement la façon dont il traînait son tonneau. Roman, notre porteur d'eau, considérait sa bête avec une satisfaction extrême. C'était un rustre de 50 ans, peu parleur et posé. Du reste, tous les cochers russes sont sérieux et même taciturnes, comme pour confirmer cette opinion suivant laquelle le commerce constant des chevaux donne à la longue du poids au caractère. Roman était tranquille, affable avec tout le monde, peu amateur de paroles. Il prisait dans une tabatière de cornes et, depuis un temps immémorial, conduisait le cheval du bagne. Il en était maintenant au troisième. À notre idée, seule une robe baie convenait au cheval de la forteresse. Aussi, pour rien au monde, n'aurions-nous acheté, par exemple, un cheval pie. Roman partageait cette manière de voir. Quant à la place de porteur d'eau, elle lui revenait en vertu d'on ne sait quel droit qu'aucun de nous ne se fût avisé de lui contester. Au moment où le vieux bai succomba, personne, pas même le major, n'accusa Roman. Dieu l'avait voulu ainsi, et Roman n'en restait pas moins un bon cocher. Bientôt, le nouveau bai devint le favori de la maison de force. Les détenus, quoique gens rudes, allaient souvent le caresser. Parfois, tandis que Roman, revenant de la rivière, refermait la grande porte que lui avait ouverte le sous-officier de garde, le bai, ayant pénétré à l'intérieur avec son tonneau, s'arrêtait pour l'attendre en clignant de l'œil vers lui. « Avance !» lui criait Roman, et le bai s'en allait aussitôt tout seul jusque devant les cuisines. Là, il s'immobilisait, en attendant que les cuistancières et les vidangeurs eussent puisé leur eau.
« Il est malin, notre bai !» lui criait-on. « Il est venu tout seul, il comprend !»«
Oui, ma foi, cette bête-là comprend tout très bien. »«
C'est un crâne-cheval que ce bai !»
Le cheval hennissait en secouant la tête, comme pour montrer qu'il appréciait la flatterie. Et quelqu'un lui apportait immédiatement du pain et du sel. Quand il avait fini de manger, le bai hochait la tête et semblait dire
« Je te connais, tu sais, je suis une brave bête, et toi, tu es un brave homme. »
Moi aussi, j'aimais à apporter du pain au bai. Je prenais plaisir à regarder son joli museau et à sentir dans mes paumes ses lèvres molles et chaudes qui happaient mon offrande.